Chapitre 28, New York, 3 juin 2012. L'Asia Week de New York regroupait la crème des antiquaires dans la spécialité. Pierre Ribaud en faisant naturellement partie. Il exposait quelques œuvres majeures dans une galerie bien en vue de la 5e avenue, non loin de Central Park. La journée s'était écoulée calmement, entre une interview donnée à un journal d'art américain et l'accueil de quelques personnalités plus motivées par le flash des appareils photo que par l'attrait des antiquités asiatiques. Il allait s'engouffrer dans une des innombrables taxis jaunes qui parcourent les avenues de Manhattan lorsqu'une voix sonore le fit se retourner. Agitant des bras musculeux depuis l'autre côté de la route, une silhouette fortement charpentée lui adressait des signes ostentatoires. C'est avec un réel plaisir qu'il identifia le corps à l'abdomen proéminent comme appartenant à Hallan, un artiste peintre canadien dont les ateliers jouxtaient l'ancienne factory d'Andy Warhol. L'Hercule traversa l'avenue en courant et saisit le bras de son ami en disant « Je t'emmène chez Gallagher, nous allons y faire une orgie de bidoche. » Et sans trop laisser la possibilité à Ribaud de répondre, il le poussa à l'intérieur d'un taxi avant d'y prendre également place. Alan possédait une tête massive, aux traits grossiers, ravinés par le temps et l'alcool. Les cheveux blancs, très fournis, entouraient un faciès de faune obèse aux yeux globuleux. Le cou, épais aux veines saillantes, témoignait d'une pratique sportive ancienne et jadis soutenue. Une fois installé sur une banquette en cuir, il commanda sans perte de temps un double martini ainsi qu'une gigantesque côte de bœuf accompagnée d'un rouge de Californie. Ribaud se contenta d'une côtelette d'agneau et d'un verre d'eau pétillante. Le peintre laissait parler son accent canadien tout en avalant d'énormes morceaux de viande qu'il arrosait de rasades généreuses. La boisson s'écoulait dans son gosier avec une facilité déconcertante. Son rire et le timbre de sa voix résonnaient de façon sonore et presque gênante dans le restaurant. Ben, « Tu vois, je dévore, je baffre. Il me reste plus que ça, donc j'en profite. Depuis un mois, je suis à nouveau célibataire. » Eva s'est fait la malle avec un merdeux. C'est pas la première fois, certes, mais ça fait quand même chier. Enfin, je croyais encore la contenter. Va savoir. » Un garçon à l'âge canonique débarrassait les restes du repas. Alan y avait fait grand honneur. Il fit tourner un reste de cognac au fond de son verre afin de l'oxygéner et affirma « Les hommes à nos âges sont comme des bateaux au milieu de la tempête. La coque se fait secouer par les vagues, on s'accroche comme on peut, mais le naufrage n'est jamais très loin. Pour certains, c'est le mât qui donne du mou, pour d'autres, c'est le moteur qui répond plus. Tous les organes nous quittent, les uns après les autres, dans une triste débandade. Et pour toi, qu'est-ce qui ne va pas ?» Ribaud se gratta la tête avant de répondre. « Bien, pour reprendre ta métaphore marine, je répondrais que pour le mât, ça irait plutôt bien, mais que pour le moteur, ça fonctionne encore pas trop mal. Ce serait plutôt l'équipage qui disjoncterait. Et dans les cales, les inquiétudes font un de ces toits intimes. Oh, tu dois comprendre ça, toi. J'ai récolté une saloperie de bruit dans l'oreille qui m'accompagne jour et nuit. À cause de lui, je ne dors plus. Je passe mes nuits à ruminer comme une bête au salon de l'agriculture. J'en suis à l'heure du bilan, lorsque le navire blessé arrive au port et quand les marins réclament leur gage. Le pire est que je ne sais pas trop quoi leur offrir. » Alan sortit une cure-dent de sa bouche et cracha sur la nappe un fragment de nourriture. « Mais je vais bon de réveiller tout ce qui sommeille dans nos marécages, » dit-il d'une voix absourdie par l'alcool. « Dostoïevski appelait cela nos souterrains, » précisa Ribaud. Le problème, vois-tu, c'est que parfois ces souterrains s'entr'ouvrent et laissent passer quelques putains de furies dont la fréquentation au quotidien n'est pas une partie de plaisir. Ouais, c'est ainsi pour nous tous, dit Alan. Mais il n'y a pas de quoi culpabiliser. Comme un ballon dégonflé, son visage rougi semblait se plisser sous l'effet combiné du cognac et des confidences. Il continua. On est, on grandit le temps de faire quelques saloperies, on baise un peu et on crève. C'est ça la vie et rien de plus. Ça vaut aussi bien pour le gars qui se dit respectable que pour le plus infâme petite raclure. Personne ne le choisit. Le libre arbitre aux hommes. Les remords, oh, tout le reste, ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas. Crois-moi, Ribot, arrête de te masturber la cervelle avec tes pensées d'intello. Choisis-toi une petite souris de 20 piges, bourre-toi de Viagra et de Vévi. Ensuite, quand le temps sera revenu, bah, t'iras comme nous tous, finir dans le trou. Et zou, à la niche, en attendant ces jours. Sois libre, prends l'existence par le cou, et sache que tu as toujours le choix. C'est ça ta recette pour atteindre la résilience? Oh, c'est effectivement un remède sophistiqué pour se réparer et dire adieu au malheur. Mon pauvre ami, si c'était aussi simple. Ribot marchait le long de Broadway. Il ressentait pour la première fois dans cette ville de New York, parcourue si souvent depuis 30 ans, un sentiment étrange d'alerte et d'angoisse, semblable à ce qu'éprouvent sans nul doute les étrangers clandestins fraîchement débarqués. Il leva son visage vers le ciel brouillé et qu'abandonnait la lueur crépusculaire. Je ne suis plus qu'un semblant de moi-même, hanté et harcelé par ce son lancinant et persécuteur. Mais comment lui imposer silence? Mais que me veut-il? Les questions posées à la nuit demeurèrent sans réponse. Chapitre 29. Paris, 6 septembre 2012. C'était un soir, il était tard. Carole, fatiguée, avait laissé son journal intime oublié sur la table de séjour. Je l'ai lu. Je peux aujourd'hui encore en réciter qu'à certaines pages. Depuis la réapparition de l'icône, ma mémoire me les livre progressivement comme un bien précieux. L'une d'entre elles ne me lâche plus. La joie est en tout, il faut savoir l'extraire. Célèbre phrase de Confucius. J'ai appris à devenir un mineur efficace, ou mineuse, je ne sais si le féminin existe, et même si la fonction a eu cours. J'espère bien que non. Depuis l'annonce de ma maladie, je goûte chaque seconde de ce qui m'est donné. La saveur réelle m'en était presque jusqu'alors étonnamment inconnue. Elle aide à un suivi jamais écœurant et donc je ne me lasse pas. Aujourd'hui, ce qui me semblait jadis de l'intérêt primordial et de nature à obscurcir mes journées se révèle à mes yeux vain et accessoire. Je vis, notion essentielle. Amor fati, disait Nietzsche, carpe diem, conseillait d'Horace. Profitez du présent, tout simplement. Je vais guérir, c'est pour moi une certitude. Je ne suis pas de ces stoïciens, tel Épictète, qui se considéraient comme fragments d'éternité et ne craignaient pas la mort. Moi, la mort me fout la trouille. L'idée de me transformer en une autre chose, un amas d'atomes qui contribuerait à l'harmonie du monde ne me rassure en aucune façon. Je ne suis pas assez sage ou pas assez folle. J'avoue attendre avec une certaine anxiété les résultats des prochains examens. Les médecins appellent cela un bilan d'extension. Je n'aime pas cette expression. Extension sous-entend une prolifération, une aggravation de la maladie. Je préférerais parler de bilan de guérison. En attendant, je vis. J'ai placé du coton dans le coussinet droit de mon soutien-gorge. Une assez belle quantité. Je taille bonnet 95 C. La chirurgie esthétique fera mieux. Premier pas symbolique vers la restauration de ma féminité. J'extrais la joie de tout. J'ai appris. Chapitre 30. Paris, décembre 1982. Je ne vous le cacherai pas, les résultats ne sont pas bons. Le docteur Guidard marqua un temps d'arrêt, puis sortit d'une pochette cartonnée une dizaine de clichés radiologiques. Nous avions attendu pendant une heure, dévorés par l'anxiété, assis dans une salle d'attente dont les seules décorations consistaient en des affiches prônant l'intérêt des dépistages des cancers. À peu près tous les organes y passaient, de la prostate au côlon, en passant bien sûr par le sein. Poussant un soupir, Carole m'avait fait remarquer qu'elle se trouvait encore éloignée de l'âge recommandé pour de telles pratiques, mais qu'elle constituait sans doute l'exception qui confirme la règle. Le médecin plaça une main sous son menton, qu'il avait osseux, et continua son exposé. Les radiothoraciques ainsi que le scanner des poumons trouvent des images à en lâcher de ballon. Carole demanda d'un filet de voix « C'est-à-dire ?» Le regard du cancérologue se fit fuir en « C'est-à-dire qu'il y a des lésions secondaires dans vos poumons. » « Mais ça signifie quoi, des lésions secondaires? Nous ne sommes pas médecins. Tout ce langage technique, spécialisé. » Le ton de Carole semblait désespéré. Des sanglots faisaient hoqueter sa voix. Le docteur Guimard se racla la gorge avant de poursuivre. « Je veux parler de métastase, c'est-à-dire que le cancer dissémine. La chose est donc sérieuse. Bon, nous allons devoir tenter une chimiothérapie plus intense. Il faudra que nous installions une chambre sous la peau, ce qu'on appelle une chambre sous-cutanée, afin d'y injecter les produits nécessaires. La cure débutera dès demain. » Hors du cabinet, nous avons déambulé dans les couloirs de l'hôpital glacé, accrochés l'un à l'autre comme des naufragés, alors qu'autour de nous tournaient des mots comme « chimiothérapie »,« chambre sous-cutanée ». Le choc émotionnel avait été si rude que nous n'avions demandé aucune explication complémentaire. J'ai serré Carole dans mes bras. Elle ressemblait à un oiseau blessé au cœur palpitant d'effroi. Chapitre 31. Je m'étais rendu très tôt au jardin du Luxembourg. La ville sommeillait encore, fatiguée par les excès de la veille. Un silence pesant planait sur les rues désertes du 6e arrondissement, l'un des quartiers de Paris pourtant les plus animés en semaine. Excepté quelques camions poubelles qui pratiquaient le ramassage des nombreuses ordures du boulevard Saint-Michel, relief des festivités du samedi soir, tout semblait endormi. Je n'aimais pas les dimanches et leurs avenues silencieuses. La sensation de ralenti, de vie entre parenthèses qu'ils donnent en eux, me plongeait dans un spleen profond, une mélancolie insondable. Plus la journée s'écrenait, plus cette sensation de vide se précisait en moi pour atteindre son acmé aux premières lueurs de la nuit. Et si un jour de la semaine entretient des rapports secrets avec la mort, oh, je pense qu'il s'agit sans nul doute de celui-là. J'avais couru dans le froid vif du petit matin jusqu'à m'en faire mal. Seul le rythme trop rapide de mon cœur me conduisant à l'entrée du malaise me fit cesser ma course. Les gardes républicains qui assurent la sécurité du palais où siège le Sénat m'observaient avec une pointe d'inquiétude, alors que totalement privé de souffle, j'ai dû m'accroupir afin d'échapper à la perte de connaissance. Mes pensées, comme toujours, se portèrent vers Carole. Elle réagissait plutôt bien face aux nouvelles pourtant alarmantes sur son état de santé. Moi, très mal. Après un léger passage à vide, elle semblait avoir récupéré une motivation affichée, une envie de combat qui forçait mon admiration. « Lâcher de ballon, avait-elle dit en reprenant le compte-rendu de radiologie. C'est plutôt joli comme expression. Ça fait songer à des enfants qui jouent et pas à des petits bouts de cancer qui vont se balader où ils n'ont pas leur place, tu trouves pas? Son joli visage, que parcouraient quelques rides de fatigue, s'était tourné vers moi. Aucune trace de panique dans ce regard bleuté que je ne pus soutenir plus de quelques secondes. Oh non, non, je ne trouvais pas, moi, oh, je ne trouvais rien. J'étais juste effondré, lâche, moche, et conscient de mon inutilité dans cette épreuve. Je la serrais alors dans mes bras, sans un mot, impuissante à la guérir, impuissant même à la soutenir. Je priais souvent, moi qui ne croyais plus en rien. Bon, je ne m'adressais pas au Dieu jaloux et atrabilaire de la Bible, mais au Christ, celui du jardin de Gethsémani, celui qui doute, qui sue des larmes de sang et dit « Mon âme est triste à en mourir ». Je ne priais pas le Dieu, je priais l'homme. Le Dieu ne m'intéressait pas. Trop impuissant, si bon, trop ignoble, si puissant. Dans mes prières, je ne demandais rien, pas même la guérison de Carole à laquelle je ne croyais plus. Je priais simplement et y trouvais un réconfort salutaire. Le soir, je ne rentrais plus que fort tard. Une galerie célèbre de Paris m'avait sollicité afin d'en occuper le poste de responsable. Elle recherchait un expert brillant, disponible pour des séjours à l'étranger et pas regardant quant à ses horaires de travail. Oh, j'avais immédiatement accepté. Je fuyais notre appartement, je fuyais Carole, je fuyais la pâle imitation qui remplaçait peu à peu celle qui m'avait jadis tant séduit. Chapitre 32, Paris, 7 septembre 2012. La Passion, selon saint Matthieu, de Jean-Sébastien Bach, direction Philippe Hérévègue. Ribot lut l'intitulé de l'œuvre qui figurait sur la pochette du disque, bien qu'il le connût par cœur. Il ôta ses souliers vernis afin de mieux se caler au fond du fauteuil en cuir, et laissa la musique envahir doucement son bureau. Il ferma les yeux. La voix de Richard, son collaborateur, ainsi que celle de quelques clients, lui parvenait depuis l'étage inférieur, maintenant assourdie comme lointaine. Il s'abandonna, porté par le sublime mouvement de l'Elbach Nebdisch, témoignage poignant de la détresse du disciple Pierre. Progressivement, le monde sensitif se fit plus flou et ouaté, jusqu'à se confondre avec les images colorées et tendres que la musique et la lumière, filtrées par la barrière des paupières, faisaient naître en son esprit. Un sentiment de paix s'installa en lui, une ataraxie qui prenait doucement la forme d'un miraculeux instant de répit. Le violon solo, écho déchirant des remords de l'apôtre, le fit tressaillir et il ne chercha pas à lutter contre les larmes bienfaisantes qui filaient sans retenue vers son menton. Il était cette musique, la même qui avait résonné en lui au cours de cette nuit-là. Chapitre 33, Paris, décembre 1982. La piscine Molitor, en ce milieu d'après-midi hivernal, n'était fréquentée que par quelques rares personnes, retraitées pour la plupart. Le calme régnait sur le bassin couvert qu'encadraient deux galeries de cabines d'art déco. Il n'était que par instants troublé par le clapotis de l'eau plissant sous la nage des rares baigneurs. La tête de Carole émergea pour disparaître aussitôt, recouverte par des vaguelettes scintillantes comme des pierres précieuses. Quelques mouvements de crawl rapprochèrent du bord la jeune femme, qui s'assit après avoir exécuté un rétablissement gracieux. Elle ferma les yeux, laissant les pâles rayons de soleil réfléchis par la verrière se disperser sur son épiderme. Le chauffage de la piscine créait l'illusion d'un réchauffement naturel. Un bonnet de main fashion, d'où elle avait pris soin de laisser dépasser quelques mèches de cheveux, lui donnait l'aspect d'une ondine casquée. Une prothèse mammaire à usage externe, introduite dans un des bonnets galbés du maillot de bain, une pièce, permettait de ne rien supposer de la chirurgie mutilatoire. Devinant un regard posé sur elle, Carole ouvrit rapidement les yeux, non sans éprouver une pointe d'anxiété. Nonchalamment appuyé sur une balustrade en métal vert, un homme au corps athlétique l'observait sans retenue. Son visage hâlé et parcouru par une fine barbe de 3 jours, sans doute savamment entretenue, lui adressait un sourire dans lequel elle lut de l'admiration et du désir aussi. Probablement ne sut-il jamais combien ce message, à l'adresse du pouvoir de séduction toujours intact de la jeune femme, provoqua de joie en elle. Plaire, oui, plaire, malgré la maladie, les traitements dévastateurs, n'était pas cela au fond la réelle victoire de la vie. Plaire, plutôt qu'inspirer la pitié, voire le dégoût. Carole se dirigea vers un des transats et se mit à lire des revues qu'elle avait glanées au hasard dans un kiosque à journaux de la porte d'Auteuil. Le récit des nuits tumultueuses ainsi que des aventures sentimentales des People s'étalait le long des pages des magazines. Une publicité pour une retraite complémentaire attira son attention. Son esprit, capable d'un certain cynisme depuis les événements récents, lui fit se demander s'il existait des contrats retraite pour malades en soins palliatifs. Soins palliatifs, c'est l'expression qu'avait employée son oncologue lors de la dernière consultation. Vous voulez donc dire que je dois renoncer à guérir et que tous ces traitements que je subis ne servent à rien? Avait-elle réagi alors qu'une colère sourde montait en elle. Le docteur Guinard avait paru embarrassé, son long visage s'était tordu en ce qu'il voulait un sourire assurant. « Oh non, non, pas du tout, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Palliatif signifie que nous allons essayer de stopper l'évolution du cancer. D'ailleurs, le terme guérison ne signifie pas la même chose pour vous, patients, que pour nous, médecins. » Nous parlons de guériser par palier, ainsi une survie à 5 ans constitue un objectif raisonnable dans le cas d'une réponse positive de la tumeur aux chimiothérapies. 5 ans de survie alors que je n'en ai pas encore 29. Oh, je souhaiterais, docteur, qu'à l'avenir vous m'épargniez les détails de vos stratégies médicales. Je ne vous en voudrais pas si vous mentez, même un petit peu, voire beaucoup en cas de besoin. Je tiens le coup pour l'instant, mais je suis pas assurée d'être si forte que ça. » Et les sanglots dans lesquels les derniers mots s'étaient noyés avaient troublé le praticien qui avait tenté de se justifier. L'obligation de dire toute la vérité aux patients résulte d'une revendication des associations qui n'hésitent pas à nous chercher des noises dans le cas contraire. Carole s'était redressée, la colère lui faisait du bien. « Mais je me fous des associations de patients auxquelles je n'appartiens pas du reste. Ce sont des pauvres types qui ne représentent qu'eux-mêmes et qui s'expriment au nom de tous. La médecine, c'est du sur-mesure et pas du prêt-à-porter. Si cela existe pour les fringues, je le réclame pour ma santé. » Et toujours allongé sur la chaise longue disposée le long du bassin, Carole n'avait pu empêcher ses souvenirs récents d'envahir son esprit et venir gâcher cette fin de journée. Adieu, beau mec bronzé. Adieu, douceur des gouttes d'eau sur la peau. Chapitre 34. Paris, décembre 1982. Je tournais la clé dans la serrure, millimètre par millimètre, de manière à me montrer le plus silencieux possible. Une fois la porte ouverte, je marquai un temps d'arrêt afin que mes yeux s'habituent à l'obscurité dans laquelle se trouvait plongé le couloir à cette heure tardive de la nuit. Soucieux d'éviter certaines lattes de bois que je savais grinçantes, j'entrepris d'avancer pas à pas. « On ne prend pas tant de précautions, je ne dors pas. » Dans le petit salon, une lumière tamisée que je n'avais pas pu apercevoir depuis l'entrée indiquait que Carole veillait. Allongée sur le ventre, simplement vêtue d'une veste de pyjama, elle détourna les yeux du livre ouvert devant elle. Son regard ne manifestait aucun signe de reproche, comme si les soirées en solitaire qui ponctuaient son quotidien ne constituaient plus un élément de souffrance. C'est comme ça qu'on arrive à éclater un jour quand le mouvement du dedans rejoint celui du dehors, et que vos idées alors s'éparpillent et vont s'amuser avec les étoiles, lut-elle avant de lever les yeux interrogateurs vers moi, toujours immobile sur le seuil de la pièce. Sais-tu qui est l'auteur de ces lignes? Tentant de me ressaisir, je m'approchai et déposai un baiser sur son front. Oh, ça me dit bien quelque chose, mais je ne sais plus. Louis-Ferdinand Céline, dans Voyage au bout de la nuit. Ne trouves-tu pas ça admirable? Questionna-t-elle, la voix enthousiaste. Bon, en vérité, Céline, même si j'apprécie certaines de ses citations, bon, le bonhomme n'est pas trop mon truc. Pas trop ton truc. Oui, tu sais, ses propos antisémites, la fuite de Sigmaringen à Copenhague et tout le reste. Mais je connais bien tout ça, mais je considère qu'on doit dissocier l'œuvre de l'auteur. Et quand je lis Le Voyage, je me dis qu'un type qui écrit comme cela peut pas être foncièrement mauvais. Du moins, j'ai envie de le croire. Les idées qui vont s'amuser avec les étoiles, ce genre de phrase me fait décoller, voyager au loin. Je suis romantique, vois-tu, et je n'y peux rien. Je saisis alors la sacoche en cuir que j'avais précautionneusement déposée sur mes genoux et en sortis une forme d'une trentaine de centimètres de long enveloppée dans du papier bulle. « Joyeux Noël !» dis-je en tendant l'objet à Carole. « Mais Noël n'est que dans 4 jours » s'exclama-t-elle, manifestement surprise. Oui, je le sais bien, mais je déteste les fêtes de fin d'année. Les cadeaux au pied du sapin, la naissance du Rédempteur, célébrés à coups de grosses bouffes, tout ça crée chez moi un spleen indéfinissable. Je préfère de loin te donner ce présent ce soir, parce que j'en ai envie, et non pas simplement motivé par une date sur le calendrier. Très bien, mais cependant tu as fait référence à Noël en me l'offrant. Ce qui pourrait paraître un peu contradictoire avec ton discours, non? Oui, ça l'est certainement. Disons que je préfère agir comme et quand je l'entends. J'ai ainsi l'impression d'exercer une certaine liberté, mais si tu veux bien, ouvre ton paquet. Carole s'enquit d'une paire de ciseaux afin de sectionner la protection résistante qui entourait l'offrande qu'elle sentait fragile et délicate sous ses doigts. Elle découvrit une statuette de dame en terre cuite, représentée debout, mains jointes en manchon, vêtue d'une longue robe terminée par une traîne, visage souriant, cheveux masqués par un capuchon. Quelle est jolie! S'écria Carole. Ah, elle ressemble à ces sœurs de Notre-Dame-des-Champs que l'on voit représentées sur les tableaux de Philippe de Champaigne. Je ris de bon cœur et précisai. Oh, elle n'a rien à voir avec les bonnes sœurs jansénistes, car bien plus anciennes. Elles datent de l'époque Han, période chinoise qui va de 206 avant notre ère à 320. Elle est donc âgée d'environ 2000 ans. Le point essentiel réside dans le fait que je te garantisse de façon certaine son authenticité. Les faux dans ce domaine pullulent. Les maisons de vente et les galeries, peu sérieuses, en proposent tous les jours à la vente. Moi, je lutte contre ce scandale. Monsieur l'expert, pouvez-vous me raconter à quoi servaient ces statuettes? Jouaient-elles un rôle particulier? Demanda Carole. Était-ce simplement décoratif ou bien cela répondait-il à une utilisation symbolique? Bon, leur fonction consistait à accompagner le défunt dans l'au-delà afin de continuer à le servir et à lui procurer certains agréments. Ce sont des statuettes funéraires que les fouilles ont extraites des tombes. Elles n'avaient pas pour nature à être exhibées, elles étaient essentiellement consacrées aux morts, répondis-je. Le visage de Carole se rembrunit de manière furtive, puis un sourire éclairant à nouveau sa face, elle reprocha à l'air faussement fâché. « Oh, mais tu aurais pu choisir un beau garçon afin de me procurer des agréments dans l'au-delà, comme tu dis. » Je me figeai, je sentis mes muscles se crisper, et d'une voix rendue vive par l'émotion, je criai presque. « Mon Dieu, mais tu commets une horrible méprise !» C'est le genre d'objet recherché par tous les collectionneurs d'art chinois. Les musées les exposent, il n'y a de nos jours plus aucune connotation funèbre là-dedans. Je mis mon visage dans le cou de Carole. Je me sentis soudain envahi par une détresse profonde, par l'émotion qui m'étreignait. Consciente de ce trouble, l'amour de ma vie m'entoura de ses bras, m'embrassa sur les yeux et me dit d'une voix douce « Oh, je plaisantais, c'est tout. Il n'y a aucune confusion dans cette affaire. J'adore ton cadeau, je vais le placer dans notre chambre. » Puis, soudain plus grave, elle ajouta « Cependant, si j'évoque la mort, c'est que je tente de m'habituer à cette idée. Je m'efforce de l'apprivoiser, car c'est une éventualité que je ne peux pas exclure, y compris dans un futur proche. Le remède du vulgaire, c'est de n'y penser pas. » Écrivait avec raison Montaigne. Je ne pus retenir les larmes qui tentaient une sortie depuis plusieurs minutes. « Oh, si tu meurs, le monde et moi, nous n'y survivrons pas. Nous devons toujours croire en ta guérison, nous n'avons pas d'autre choix. »« Je ne sais pas. Parfois, il me semble que nous lançons des flèches aux étoiles et que c'est donc en vain. » Je l'embrassai tendrement, comme je ne l'avais pas fait depuis plusieurs semaines. Nous demeurâmes longtemps ainsi, tendrement enlacés sur le tapis du salon, jusqu'à la fraîcheur du petit matin. Chapitre 35. Paris, 20 septembre 2012. Des murmures de mécontentement montaient depuis la file d'attente. Les vigiles, stoïques sous les quolibets, ne laissait passer qu'une dizaine de personnes à la fois, ce qui provoquait l'exaspération des invités et persuadait que leur carton d'invitation pour cette soirée d'inauguration était de nature à leur éviter ce genre de désagrément. Les smokings et les robes de haute couture s'agitaient d'autant plus qu'une pluie fine avait fait son apparition. Ribaud, en tant que membre du syndicat des antiquaires, n'avait pas eu à souffrir ce déplaisir. Il avait rejoint la coupole du Grand Palais par une porte réservée à un petit nombre de personnalités triées sur le volet. La réalisation de la biennale avait été confiée à un célèbre couturier qui avait transformé les salles de l'édifice en place de la capitale d'où partaient des avenues ornées de stands somptueux. L'événement attirait, outre les plus riches collectionneurs de la planète, des nouvelles fortunes issues des pays émergents, heureuses de se frotter à la vieille aristocratie française, des hommes et des femmes politiques d'horizons divers, ainsi que tout ce que la scène parisienne comptait de célébrités en vue. Un des organisateurs de la biennale, joaillier de renom, abandonna au milieu d'une phrase à un couple de visiteurs, visiblement surpris par la manière, et se précipita vers Ribaud. « Oh, Pierre, je suis bien heureux que tu sois venu. Je regrette sincèrement que tu n'aies pas souhaité faire représenter ta galerie à l'aide d'un de tes stands. Il faut que nous agissions contre la concurrence des foires et des salons qui se tiennent partout ailleurs dans le monde. L'événement auquel nous participons ce soir constitue une chance de faire rayonner notre manifestation et tu représentes un atout majeur pour notre profession. » « Oh, je te remercie mille fois, Daniel, mais je sais tout ça. Je ne suis pas associé à cette réalisation, car vois-tu, je crains ne plus avoir la foi. »« La foi !» Le regard gris-acier de Daniel se durcit derrière les lunettes. « Mais nous parlons d'un marché, le marché de l'art, et non pas de religion. Si on ne veut pas se faire bouffer, on doit réagir et non pas se lamenter au sujet de crise de conscience. Laisse ça aux séminaristes, qui n'ont d'ailleurs jamais été si peu nombreux, et remets-toi à bosser avec nous. Nom de Dieu, tu parais apparu au syndicat depuis plus de 6 mois. Tout le monde s'inquiète et Paris bruisse de rumeurs à ton sujet, plus inquiétantes les unes que les autres. On parle de cancer, de maladie d'Alzheimer et beaucoup d'autres se considèrent comme déjà foutus. Et qu'en pense Laure de tout ça? Il faut qu'elle te secoue. D'ailleurs, où est-elle? Elle t'accompagne pas? Ribot, ça les épaules, elle va pas tarder, à un contretemps sans doute. Profitant de ce qu'un journaliste s'approchait afin de solliciter la permission de prendre une photo, il s'éloigna dans le but de saluer quelques exposants et prouver ainsi à la profession qu'il n'était pas tout à fait mort. Une hôtesse, élégamment vêtue, lui proposa une flûte de champagne qu'il s'apprêtait à accepter. Lorsque l'individu en smoking le bouscula afin de saisir la coupe, renversant par là même une partie du breuvage sur la jeune fille. Habitué à ce genre de comportement grossier mais courant lors des soirées de gala, Ribot ne manifesta en aucune façon sa désapprobation, et délaissant le goujat qui s'inquiétait des coordonnées téléphoniques de l'hôtesse, il se dirigea vers l'avenue centrale, amusé par certaines conversations échangées entre visiteurs. Ma chérie, mais vous êtes encore en France? Qu'attendez-vous pour fuir? Fuir, mais pour aller où? Mais vers des pays où l'on nous aime encore, ma chère. Il aperçut Laure en discussion avec un bel âtre d'une vingtaine d'années, tout près d'une salle consacrée à la peinture flamande. Il dut se frayer un chemin parmi les nuées de jeunes Russes et Chinoises, aux mains pleines de petits fours, avant de pouvoir enfin de rejoindre son épouse. Le premier regard lui apprit qu'elle avait déjà consommé une quantité importante d'alcool. Sa silhouette habituellement raide semblait affaissée. Une rougeur inhabituelle empourprait son visage pourtant régulier, et non dénué d'attrait, mais à cette heure lourd et presque vulgaire. Sans prêter attention à l'importun gominé qui s'apprêtait à ouvrir la bouche, sans doute pour se présenter, il saisit Laure par le bras et l'entraîna un peu à l'écart. « Et pourquoi ce soir? » lui demanda Ribot. « Pourquoi quoi? » dit-elle, voix pâteuse. « Mais tu as bu plus que de raison. » Et tu viens t'afficher ici à moitié saoul. Tu veux m'humilier? Tu cherches à me ridiculiser devant toute la profession. C'est bien ça que tu souhaites? Laure émit un petit rire aviné et posa une main sur l'épaule de son époux. Mon petit mari s'inquiète pour sa petite réputation. Mon petit mari s'en fiche de sa petite femme qui ne baisse plus. Mais se fait du souci pour son petit prestige. Mon petit mari se fout d'être cocu, mais panique pour sa petite renommée. Oh, je t'en supplie, ressaisis-toi, on nous regarde. Ribot tira sur son nœud papillon qui le menaçait d'asphyxie. Qui nous regarde? Les vieilles momies poudrées qui se croient encore belles car pleines de thunes, les demi-putes bagousées entretenues par le vieux libidineux. Les truands venus blanchir leur fric, très bien, puisque je te fais honte, ben je me barre. Il ne fit rien pour la retenir, resta sur place, effondré, le menton baissé, les poings serrés jusqu'à en avoir mal. À la voix amusée d'un confrère, exposant spécialisé en art surréaliste, le tira de sa torpeur. Dis donc, Pierre, je viens de croiser ta femme. Oh, elle avait l'air en pleine forme. Chapitre 36. Paris, décembre 1982. La rue Saint-Dominique semblait endormie, non pas en raison de l'heure tardive, l'horloge de l'Assemblée nationale indiquant 18 heures seulement, mais du fait que cette partie du 7e arrondissement, parisien dite des ministères, s'assoupissait complètement les samedis et dimanches. Il en était logiquement de même en ce jour du 25 décembre. Une voiture de police en patrouille rompait à intervalles réguliers le silence pesant et morne qui régnait depuis le matin. Debout devant la fenêtre, j'observais en me demandant bien quel cambrioleur ou autre délinquant inconscient prendrait le risque de venir commettre un de ces forfaits dans un des quartiers les plus sécurisés de Paris. L'étude d'un manuscrit chinois du XVIIIe siècle m'avait occupé durant la quasi-totalité de l'après-midi. Seule l'apparition d'une migraine en avait interrompu l'exercice. Comme je l'avais déjà confié à Carole, je n'aimais pas la journée de Noël. Je ne l'avais jamais aimée. Je me souvins qu'enfant déjà, une tristesse difficilement narrable s'emparait de moi dès le dernier cadeau ouvert. Je retardais d'ailleurs l'opération à dessein aux grandes dames de mes parents, qui suspectaient à tort un désintérêt pour les présents. Il n'en était rien. J'avais simplement conscience qu'une fois l'offrande déflorée, la période merveilleuse de l'attente, de la promesse, prendrait également fin. Noël célébrait la naissance de l'enfant divin, mais qui, dès minuit passé, n'avait que la mort atroce pour horizon. La mort, qui pour cette raison sans doute, planant de manière subreptice sur tous les 25 décembre, les imprégnait de tristesse et de nostalgie. Le bruit d'une clé tournant dans la serrure m'informa du retour de Carole. Je n'avais pas souhaité l'accompagner chez ses parents, ce qui n'avait provoqué de sa part aucune réaction de reproche. En l'embrassant, je notai chez elle, et avec inquiétude, le teint extrêmement pâle ainsi qu'un essoufflement inhabituel. Ah, j'ai couru afin de ne pas me mettre en retard, car je vais nous préparer un petit repas de fête. Regarde ce que j'ai apporté. Du caviar, du saumon, des blinis et des pinces de homard. Je me dirigeais vers le bar afin de choisir une vodka appropriée au menu prévu, quand un bruit de vaisselle brisée émanant de la cuisine me fit me retourner. Carole était à terre, un de ses genoux saignait, meurtri par des éclats de verre. Oh, ce n'est rien, dit-elle, une sorte de petit malaise. Aide-moi, si tu veux bien me relever. Je me précipitai, passai les mains sous ses aisselles afin de la soutenir, mais stoppai net mon geste, choqué par la couleur translucide de son visage. Oh, tu veux pas plutôt que j'appelle un médecin? Non, non, ça va aller, balbutia-t-elle, avant de s'effondrer totalement inerte entre mes bras. Le mouvement de panique extrême, l'appel du SAMU, les réponses aux diverses questions du régulateur, les sirènes, les brancards, tout ce qui en s'ensuivit prit l'aspect d'un cauchemar dans lequel je flottais presque inconscient. Je repris contact avec la réalité dans la salle d'attente des urgences de l'hôpital. Un cliquetis m'agaçait prodigieusement depuis plusieurs minutes, sans que j'eusse cherché à y en identifier l'origine. Je posai les mains sur les jambes et le bruit cessa subitement. Dans mes poches, les clés s'entrechoquaient au rythme de mes tremblements. Surgit de ma droite un grognement animal accompagné d'une odeur nauséabonde, me fit recouvrer l'intégralité de mes sens. Un clochard, manifestement ivre, me soufflait une haleine fétide au visage en poussant des paroles inintelligibles. La nausée me serra implacablement la gorge. À genoux, sans plus aucune retenue, je laissai s'écouler mes larmes et je vomis. Me redressant avec peine, je sortis de la salle en titubant, alors que le clochard vociférait et hurlait. Gros dégueulasse! L'interne des urgences passa une main sur son visage que parcourait une barbe de 3 jours. La situation n'est pas brillante, me dit-il. Les poumons sont complètement envahis. C'est une vacherie pour une gosse de cet âge. Où est-elle? Qu'allez-vous faire? Puis-je lui parler? Les phrases se bousculaient dans ma bouche. Ben, d'abord, nous allons la transférer en RECA, et puis ensuite d'autres confrères aviseront. On pourrait peut-être la voir plus tard. Allez, courage. Quelle merde! Oh, et le jour de Noël! L'interne s'en alla le long du couloir où les guirlandes suspendues formaient une sorte de haie d'honneur dérisoire. Une infirmière avait bien précisé: « Vous n'êtes pas autorisé à rester auprès d'elle plus de 5 minutes. » Résigné, j'avais répondu: « Bon, d'accord. » Ce fut l'habillage dans une espèce de sas, la charlotte sur la tête, des chaussons jetables aux pieds, une blouse verte stérile, puis ensuite l'entrée dans la salle de réanimation. Mon choc fut si rude en apercevant ces lits autour desquels s'affairaient des machines inquiétantes dont les sons se répondaient en un concert épouvantable que je faillis en perdre l'équilibre. Une ombre masquée me saisit la main et m'entraîna vers un des box. Carole y reposait. Ses yeux étaient clos. Un barboteur à oxygène lui insufflait la vie à l'aide de deux tubes abouchés dans ses narines et les ailes de son nez faisaient un mouvement mécanique. Timidement, je lui saisis la main. Les paupières de la malade s'ouvrirent et je lus dans l'iris bleu un appel au secours d'une détresse infinie. Qui a dit que la mort ne pouvait pas se regarder en face? Un imbécile qui ne te connaissait pas, répondis-je, alors que mon masque s'humidifiait au pourtour des yeux. Si je meurs, me promets-tu de rester avec moi jusqu'au bout, de m'accompagner? Oh, j'aurais si peur de partir toute seule, dit-elle alors qu'une hantise inconsolable agitait le fond de ses yeux. La lumière artificielle du cyalithique dessinait des ombres grises sur son visage de statue. Je me dis que même dans cette situation, elle demeurait belle. Je te le promets. Tu sais que je crève de ne pouvoir te guérir, mais je suis là, je serai toujours là. Je quittai l'hôpital alors que la nuit de décembre se mouillait de piquetées de givre. Je ne devais jamais plus y retourner. Chapitre 37. Paris, décembre 1982. Carole est morte le 27 décembre. J'en fus informé par un coup de téléphone laconique émanant de l'hôpital. Monsieur Pierre Ribaud? Oui. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Mademoiselle Carole Herman. Bien, je vous remercie. Bien, je vous remercie. La première phrase prononcée par moi depuis 2 jours. La première à franchir mes lèvres desséchées. 48 heures passées dans le petit recoin du salon, derrière le grand fauteuil en cuir, sans boire ni manger, l'aria désespérée de la passion en tête. 48 heures écoulées à maudire mon odieuse lâcheté. 48 heures durant lesquelles, replié sur moi-même comme un vautour blessé, j'ai imploré la mort. 48 heures sans visite de la faucheuse, car on ne meurt pas de honte. 48 heures au bout desquelles la vie, bonne fille, me prit par la main. Chapitre 38. Paris, 29 septembre 2012. Ribaud monta d'un pas lent les escaliers en bois recouverts d'un tapis doré et accéda au palier menant à son appartement. Lorsqu'il ouvrit la porte, il sentit une odeur douceâtre au premier abord, puis très rapidement nauséabonde. Une inspection rapide lui fit découvrir que des sacs poubelles, sans doute oubliés dans la cuisine depuis plusieurs jours, en étaient la cause. La femme de ménage à laquelle il avait donné congé une semaine auparavant n'avait pas eu la délicatesse de débarrasser l'appartement de ses ultimes détritus. Quant à l'eau, elle n'était pas réapparue depuis l'épisode de la Biennale. Il pénétra dans le vaste salon, s'assit dans son fauteuil et retira d'une serviette en cuir l'icône, ce morceau de bois qui séjournait à demeure. Elle était vraiment touchante, les petits anges dorés en bas à gauche, Élie emportée au ciel par un char de feu dans la partie supérieure, et le centre occupé par des épisodes de la vie du prophète. Il se servit un verre de whisky qu'il avala d'une seule lampée. Pourquoi la vie ne nous offre-t-elle jamais une seconde chance? Pourquoi ne nous est-il pas possible de rembobiner la cassette une fois que l'on sait? La pensée fit plisser ses lèvres en un rictus amer. L'acouphène, subitement, quitta son oreille, se déplaça au-dessus de sa tête, comme extérieur désormais à lui. Il eut pendant un moment l'impression indéfinissable, sans doute due à l'alcool, que ce son le regardait. Il se leva et alla chercher le vieux disque compact de Philippe Hervègue qu'il glissa dans le lecteur. Et pendant que le chant des chœurs d'introduction « Venez pleurer avec moi » attestant du drame christique à venir s'élevait, il se versa un nouveau verre. Des images, fragiles comme des bulles de savon, se mirent à danser autour de lui. Mira à la maternité, Aurélie dans les bras, Laure les yeux fermés après l'amour, Carole la bouche à jamais figée en un sourire moqueur, un fœtus agrippé à son cordon, un corps étendu au milieu des cris et des pleurs après le long silence d'un milieu ouaté. Il reprit le long couloir au bout duquel était la petite pièce servant de débarras. Personne n'avait touché au cadre du roi d'Ancor, qui gisait fracassé à terre ainsi qu'à la carabine, toujours debout à la même place et sans doute chargé. Il referma la porte derrière lui.